L'origine de l'humanité. Ceux que nous appelons des brutes eurent leur revanche quand Darwin nous prouva qu'ils étaient nos cousins. Bernard Shaw.
Ans d'histoire. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? De qui descendons-nous? Ces questions que l'homme se pose depuis toujours ont été longtemps réservées aux philosophes ou aux théologiens, selon lesquels, pendant des siècles, les origines de l'humanité ne faisaient aucun doute. Nous descendions tous d'un premier homme, né spontanément il y a quelques 7000 ans. Un âge de l'humanité qui fait aujourd'hui sourire quand on sait que les fossiles humains les plus anciens, découverts depuis par les paléontologues, datent de près de 6 millions d'années, que les hommes ont fabriqué leurs premiers outils il y a plus de 2 millions d'années, maîtrisé le feu il y a 600 000 ans, et que l'Homo sapiens, qui fut le premier à enterrer ses morts et à employer un langage articulé, est apparu il y a à peine, si l'on peut dire, 100 000 ans. Des découvertes qui donnent le vertige et remettent même en cause l'idée révolutionnaire de Darwin, selon laquelle nous serions tous les descendants directs des singes. France Inter, le 19 avril 1982.
Le téléphone sonne. Animé par Patrice Bertin.
Si vous nous écoutez attentivement ce soir, vous devriez tout savoir sur nos origines, les origines de l'homme, une émission qui s'imposait puisque c'est aujourd'hui le 100e anniversaire de la mort du savant britannique Charles Darwin. Avec nous ce soir, pour répondre à vos questions, Michel Sacca, qui est sous-directeur du laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme. Monsieur Sacca, bonsoir. Permettez-moi de vous poser la première question. Soyez dur s'il le faut, mais soyez franc, est-ce que je descends du singe?
Non, je suis très franc, vous ne descendez pas du singe. En réalité, ce qui est vrai, c'est que le gorille et le chimpanzé sont nos plus proches cousins.
Pascal Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France, et vous avez dirigé avec Yves Coppens un livre passionnant en deux volumes, publié chez Fayard, Les origines de l'humanité. Alors je vous pose la même question, et vous répondrez peut-être par la même réponse qu'il y a 20 ans. Est-ce que nous descendons du singe?
Non, nous ne descendons pas. On ne descend pas du singe. Quand on a dit que l'homme descend du singe, c'était à l'époque où Darwin, justement, a publié L'origine des espèces. Et là, on comprend qu'en effet, nous avons des relations filiales entre l'homme et les singes. Donc c'était déjà un grand progrès, vous avez cité les philosophes, les théologiens, et d'accepter cette généalogie entre l'homme et le singe était déjà considérable dans la pensée occidentale. Mais en 1982, au moment où on cite Michel Sacca à l'instant, il y a une autre évolution scientifique, celle de l'anthropologie moléculaire. Je vais très vite, c'est-à-dire qu'on arrive à comparer le matériel génétique entre les hommes et les singes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ADN. Donc là, c'est vraiment le caractère qui permet de nous dire qui est plus proche l'un de l'autre. Si deux frères ou deux sœurs se ressemblent plus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont plus de gènes en commun. Et l'anthropologie moléculaire, au début des années 1980, nous montre qu'en effet, les chimpanzés et les gorilles sont beaucoup plus proches de l'homme qu'ils ne sont des autres singes. Et que par conséquent, que nous sommes frères ou cousins, et que nous avons des derniers ancêtres communs exclusifs, très récents dans l'histoire de la vie.
Alors, cousins, donc, ça veut dire que nous avons des ancêtres communs, on va revenir avec vous comme vous le faites dans votre livre, Pascal Pic, ça veut dire que nous avons des ancêtres communs qui sont les hominoïdes, c'est ça?
Alors, les hominoïdes d'aujourd'hui, ce sont en fait...
D'hier, plutôt.
Et d'aujourd'hui, parce que c'est une famille qui est représentée aujourd'hui et hier. Donc, effectivement, la classification, ça peut sembler un peu rébarbatif, mais ce sont des repères nécessaires pour comprendre où nous sommes dans le monde du vivant. Alors, les hominoïdes, c'est qui aujourd'hui? Les hommes, les deux chimpanzés, chimpanzés et bonobos, les gorilles et les orang-outans. Et là-dedans, il y a plusieurs lignées. Une grande lignée africaine, qu'on appelle les hominidés. C'est les chimpanzés, les gorilles et les hommes. Et une autre lignée qu'on appelle les pongidés. Là, c'est la grande lignée asiatique avec les orang-outans. Nous sommes des Africains.
Alors, nous sommes séparés des singes. À quel moment, hein? Nous sommes des hominoïdes, comme eux, même des hominidés. On s'est séparés. Alors, vous évoquez une période de l'histoire, de la géologie aussi, un accident géologique considérable qui serait produit en Afrique, Pascal Pic, ce que vous appelez l'East Side Story. Hein, c'est la naissance du grand rift, de cette faille qui coupe...
l'Afrique sur 3000 km d'est en ouest.
Alors, le père de cette hypothèse est Yves Coppens. Mmh. Et Lisa Story nous dit la chose suivante. Que les populations de notre dernier ancêtre commun, que nous avons peut-être maintenant, avec le fossile du millénaire, on y reviendra certainement, étaient réparties à la fois à l'est et à l'ouest de l'Afrique. Et à cette époque-là, en effet, le Grand Rift se déforme. C'est là qu'on trouve les grands lacs, c'est là qu'on trouve les grands fleuves africains. C'est un fossé d'effondrement, mais les forces considérables qui rentrent en jeu font s'élever des épaulements, des plateaux de part et d'autre de ce Grand Rift. Voilà une barrière géographique qui va se transformer en une barrière climatique. Et par conséquent, l'ouest de l'Afrique va continuer à bénéficier de la pluviosité qui vient du golfe de Guinée. Donc là se maintiennent les grandes forêts tropicales. Et de l'autre côté,
et
à l'est,
cousins, les gorilles et les
alors c'est là qu'évolueront, depuis le dernier ancêtre commun, que l'on verra arriver les gorilles et les chimpanzés, ouais. Dont au passage, je signale, on ne connaît pas du tout l'histoire évolutive. Ouais. On ne sait pas du tout comment sont les ancêtres des chimpanzés et des gorilles. Et à l'est, on connaît mieux l'histoire, c'est la nôtre, c'est heureux d'une certaine manière. On verra apparaître les Australopithèques et les hommes, donc dans cet environnement plus ouvert, dit en mosaïque, d'où le nom d'East Side Story. Donc ce sont des événements liés à la tectonique des plaques, c'est-à-dire à la dérive des continents, qui vont présider aux origines de l'homme.
Et les hommes, les origines de l'homme, c'est-à-dire les Australopithèques, les premiers à se dresser, à se mettre debout, à marcher, et c'est comme ça qu'on s'est séparé en quelque sorte des grands singes, et que sont apparus les Australopithèques. Donc le premier a été découvert, je crois, en 1924 en Afrique du Sud, mais le plus célèbre, la plus célèbre, étant bien entendu Lucie, découverte le 30 novembre 1974 par une équipe internationale de chercheurs, et parmi eux les Français Yves Coppens et Maurice Taïeb, Maurice Taïeb que l'on écoute dans cette archivina de 1976.
Lucie a 1m20, c'est disons une cousine du premier homme. Lucie a été trouvée en Éthiopie, pas très loin de la mer Rouge. Cet environnement de Lucie, elle a été trouvée dans des dépôts qui sont un ancien lac et avec une faune de savane ouverte. C'est désertique, c'est assez chaud, il y a des acacias. Et il y a des animaux tels que le zèbre, quelques antilopes. Et il semble que Lucie et ses cousins vivaient en harmonie avec une nature, mais déjà l'homme commence à conquérir son territoire.
C'était Maurice Taïeb en 76, deux ans ou quelques mois, même après avoir découvert Lucie, une Australopithèque. On n'ose pas dire encore homme, hein. Australopithèque, je crois que ça vient de Australo, sud, pithèque, pithécus, singe.
Oui, ce sont les singes de l'Afrique du Sud, ouais. Où ils ont été découverts en premier en 1924, comme vous l'avez bien dit. Oui, alors en fait, on n'y a pas cru à ces Australopithèques au départ. Et il faut attendre cette grande aventure d'Afrique de l'Est qui va voir arriver Maurice Taïeb, Yves Coppens et Don Johanson. Et Lucie, donc, qui est vraiment la mascotte de la préhistoire. C'est un squelette exceptionnel, soyons très clairs. Et aujourd'hui encore, c'est une référence. On sait aujourd'hui que c'est plus qu'une cousine. Elle n'est pas sur notre lignée.
Alors, ah non plus.
Elle, non, elle n'est pas sur notre lignée. On sait qu'elle est l'ancêtre d'autres Australopithèques qu'on appellera robustes, donc beaucoup plus costauds. Mais en tout cas, parce que depuis, on en a d'autres qui sont plus proches des origines de l'homme. Alors, c'est quoi un Australopithèque? Ben, disons que ce sont des grands singes, entre guillemets, qui mesurent entre 1m10 et 1m30, qui marchent debout, mais qui ne sont pas capables de courir. Lorsqu'ils marchent, il faut alterner les mouvements des bras et des épaules. Les hanches ont de fortes rotations, donc c'est pas très stable.
Et mais ils marchent parce qu'on est en savane, c'est-à-dire parce qu'on n'a plus d'arbres, c'est pourquoi alors?
Non, non.
Alors, parce qu'ils marchent par rapport à d'autres singes dont on s'est séparés maintenant.
Oui, alors il y a eu d'autres formes de bipédie dans d'autres lignées, ça on n'en parlera pas. Mais en l'occurrence, à l'époque où Maurice Taïeb s'exprime, on pensait qu'effectivement, nos ancêtres avait acquis toutes ces caractéristiques vraiment dans la savane, parce qu'il fallait se redresser dans ce milieu dangereux dans lequel on ne peut pas se protéger, à la fois pour voir les proies, les prédateurs. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, Lucie, on l'a remise dans les arbres, parce que des études, parce que ça commençait, hein. Donc dans les années 80, autour d'Yves Coppens, plusieurs études ont montré que Lucie passait autant de temps dans les arbres que sur le plancher des impalas, si je puis dire, ou des antilopes. Et de fait, il passait d'un bosquet d'arbres à l'autre en marchant comme cela. Donc c'est une marche instable, mais pour le reste, le haut du corps ressemble beaucoup plus à celui d'un chimpanzé. Et puis ils ont un cerveau comme celui des chimpanzés, et surtout de très grosses mâchoires.
Elle était jeune, je crois.
Elle a décédé dans l'équivalent de l'âge de 20 ans, mais son âge exact pour son époque, c'est 3 150 000 ans.
y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pité contre Robus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire, confèrent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calépige au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et j'avais pas de culotte. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de retombées.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les origines de l'humanité.
C'était Serge Gianni, l'homme fossile. Alors il a une excuse, c'est en 68, c'était avant Lucie, hein. Celle dont nous parlons est une femme, c'est pas un pithécanthrope, donc c'est un australopithèque afarensis, hein, parce qu'on l'a trouvé dans les Afars, c'est ça?
La région de l'Afar en Éthiopie, absolument.
Alors, c'est la plus célèbre des découvertes, la plus importante, on la reconnaît, puis il y a aussi ce nom de Lucie, hein, qui vient des Beatles, je crois que c'était l'époque où les Beatles chantaient Lucie, mais c'est pas la dernière découverte. Il y en a eu d'autres depuis qui font vieillir ou rajeunir Lucie, si je puis dire.
Ah oui, alors c'est une des raisons d'ailleurs de ces ouvrages, c'était de faire le point sur toutes ces découvertes qui se sont accumulées depuis 1974, et même pour être plus précis, depuis 1994. On s'apprêtait à fêter les 20 ans de Lucie, et d'un seul coup on a eu plein d'invités qu'on n'attendait pas, donc c'est-à-dire des fossiles, si je puis dire. Et en l'espace de 5 années, la pauvre Lucie s'est fait voler la vedette. À l'heure actuelle, autour de Lucie, il y a pas moins de 4 ou 5 espèces d'autres australopithèques, plus un, le plus récent qui a été annoncé au printemps 2001, qu'on appelle l'homme du Kenya à face plate, c'est-à-dire le Kenyanthropus platyops, qui montre qu'en effet, à l'époque de Lucie, il y avait énormément d'espèces contemporaines, c'est-à-dire que notre famille n'était pas composée d'une seule lignée qui va vers l'homme. On se retrouve avec un buissonnement d'espèces qui se répartissent à la fois sur l'Afrique de l'Est, où on compte au moins 3 ou 4 espèces, également au Tchad, parce qu'il y a eu des découvertes par une équipe française, d'ailleurs, Michel Brunet de Poitiers, donc Abel au Tchad, et en Afrique du Sud, on en a trouvé d'autres. Donc en fait, on se retrouve avec un véritable peuple australopithèque, dans lequel les grosses mâchoires, les cerveaux plus ou moins développés, et les bipédies plus ou moins performantes, se trouvent déclinés de toutes les manières.
Les plus anciens fossiles, Pascal Pic, je crois que ça remonte à 6 millions d'années, fossiles humains ou humanoïdes.
Oui, alors là, il est intéressant de montrer où on en est d'un point de vue scientifique sur la connaissance de l'évolution de l'homme. On sait que c'est en Afrique. Ça, pour l'instant, ça tient bien.
C'est sûr, parce que vous évoquez aussi d'autres origines possibles qu'on a évoquées, ouais. L'Asie.
Oui, alors ça, pour l'Asie, parce qu'en effet, on n'a pas de fossiles au-delà de 6 millions d'années en Afrique, ou très peu de choses. Donc, comme on en avait en Asie, on s'est dit, autant aller chercher ce que l'on a. En fait, il nous échappe pour l'instant, pour deux raisons, c'est que c'est l'Afrique. Parce que les plus anciens ancêtres de l'homme, les australopithèques, et le fossile du millénaire que je vais évoquer dans un instant, viennent d'Afrique. Et puis on sait que c'est l'Afrique, pour quelle raison? Bah c'est parce que nos frères les chimpanzés vivent encore là-bas. Donc on sait très bien que des espèces issues d'une même famille originale, d'une même espèce, même un dernier ancêtre commun, occupent des régions géographiques voisines. Darwin l'avait déjà dit en 1871. Donc on sait que c'est l'Afrique.
Le fossile du millénaire, c'est quoi?
Alors justement, on n'avait aucun fossile au moment de l'Isaïstory. L'Isaïstory, ça se situe grosso modo entre 6 et 10 millions d'années. Ça, ce sont des estimations. Parce qu'on n'avait pas de fossile. Jusqu'à la fin de l'année 2000, où une équipe franco-kenyane a découvert donc le fossile du millénaire, qui s'appelle Aurorin, qui vient du Kenya, daté de 6 millions d'années. Et la grande surprise, c'est que ce fossile très proche du dernier ancêtre commun est déjà très bipède. Donc ce qui montre que cette capacité de marcher debout est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait.
Alors toutes ces découvertes et toutes ces hypothèses ont fait évidemment vieillir l'idée que l'on se faisait de nos origines, et cela depuis l'Antiquité grecque, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Mais comme toutes les civilisations, les Grecs de l'Antiquité donnent à l'homme une origine divine. Le poète Hésiode, par exemple, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ça nous paraît beaucoup moins loin maintenant.
Oui.
Il raconte le mythe de la naissance du monde et des dieux, puis la création par Zeus de l'homme et de la femme. Alors ça commence plutôt joyeusement. Il éclata de rire, Zeus, le père des hommes et des dieux, et il commanda à l'illustre Héphaïstos, c'est Hercule, d'asperger au plus vite la terre d'eau, d'y mettre la voix et la force d'un homme, et de fabriquer un beau corps de vierge. Immédiatement, l'illustre boiteux, donc Héphaïstos, modela dans la terre l'image d'une chaste vierge. La déesse Athéna l'habilla et la para de colliers d'or et de fleurs printanières. C'est plutôt joli, hein. Le poète grec Pindare en est persuadé, lui aussi. Le genre des hommes et des dieux est le même, dit-il. Nous sommes issus les uns et les autres d'une même mère. Et les animaux là-dedans, vous me demanderez, eh bien, Aristote en parle déjà. On ne dira pas évidemment qu'Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ, est un darwinien avant l'heure. Mais le philosophe grec n'est pas idiot et le face-à-face avec le singe le trouble profondément. Les singes ressemblent à l'homme, constate Aristote. Leur face, leur nez, leurs oreilles, leurs dents se rapprochent beaucoup de ceux de l'homme. Comme lui, le singe a des cils, des mamelles, des mains, des doigts et des ongles. Mais Aristote nous rassure, chez le singe, toutes ses parties ont quelque chose de bien plus bestial. Alors, certains penseurs grecs, c'est la pensée matérialiste, ne croient pas à une origine divine de l'homme. Par exemple, le poète Lucrèce, ça se passe au 1er siècle avant Jésus-Christ, pour lui, et c'est ce qui fait son originalité, tout vient de la matière, de l'atome, les hommes comme le reste. Nous sommes tous nés du ciel, écrit Lucrèce. Du ciel tombent les eaux pures, et quand les gouttes pénètrent au sein de la terre bienfaisante, cette mer féconde des êtres. Elle produit les grasses moissons, les arbres fertiles, la race des hommes, toutes les espèces vivantes. En ce qui n'empêche pas Lucrèce de reconnaître quelques particularités à l'homme. Les hommes, dit-il, sont agités par le tremblement du rire. La rosée des pleurs baigne leur visage, leurs joues. Ils sont habiles à parler sur la substance des êtres. En somme, ce qui les caractérise, ce sont les sentiments et le langage. Et encore, Lucrèce, en observant une vache, voit bien qu'elle aussi, elle est malheureuse quand elle est séparée de son petit veau. Alors, si on suit Lucrèce, le propre de l'homme serait-il le rire?
Alors justement, parce que Lucrèce, il y a 2000 ans, ignorait l'existence de Lucie, mais il se pose la bonne question, le propre de l'homme, parce qu'au fond, là, on parle des ancêtres de l'homme, mais qu'est-ce qui fait que Lucie est ou n'est pas un homme, ou plutôt une femme? Qu'est-ce qui les distingue? Quel est le propre de l'homme? Le rire, vous en parlez quelque part, vous dites, le rire est une affaire trop sérieuse, Pascal Pic, vous dites, pour ne pas en trouver les prémices chez les grands singes, ils rigolent aussi.
Bien sûr. Alors, en fait, dans cette revue de presse, on s'aperçoit qu'il y a deux oppositions entre sortir l'homme de la nature.
La presse grecque.
De texte, pardonnez-moi.
C'est pas grave.
Vous voyez comment je suis. Et de fait, il y a une première tendance qui consiste à identifier l'homme au Dieu. Et à partir de là, tout le propre de l'homme a été fait en sorte pour nous sortir du monde animal. Et avec cette conséquence un peu perverse de dire ce qui est à l'homme ne peut pas exister dans la nature. Et donc, ceci explique pourquoi, et votre émission 2000 ans d'histoire le montre bien, c'est que ça fait simplement 30 ans par rapport à cette longue histoire qu'on a observé les chimpanzés. Parce qu'on était tellement sûr de cela que l'homme se distinguait non pas par nature mais par essence du reste de la nature, qu'on se dit après tout, l'homme c'est l'outil, l'homme c'est la bipédie, l'homme c'est le rire, la conscience, la politique.
Ouais.
Et on n'avait jamais été voir ce qui se passait chez les chimpanzés.
Mais on se rend compte, c'est ça qui est troublant. C'est le titre de votre sous-titre de votre deuxième volume.
Absolument.
Sur les origines de l'humanité, ouais. Le propre de l'homme. Ça, c'est vous innovez. D'ailleurs, vous faites appel à des tas d'autres disciplines que la paléontologie. Vous faites appel à l'éthologie, notamment à l'étude des primates, des comportements de primates. On se rend compte que les primates marchent aussi. Or, on disait au fond, ce qui nous distingue des animaux et notamment des singes, nos cousins, c'est que nous marchons. Or, ils marchent aussi.
Les bonobos, donc les chimpanzés dits nains, sont très bipèdes. Et on s'aperçoit du côté des fossiles que les bipédies ont été déclinées de toutes les manières. Tous les australopithèques sont bipèdes. On a dit qu'Aurorin était bipède. Il y a même d'autres lignées de grands singes. Et en fait, le propre de l'homme a souvent été défini à partir de l'homme qui se croyait d'une autre essence. Et à partir de là, on ne s'est jamais posé la question de ce qu'il y avait autour de nous. Et en fait, ça se retrouve également dans les schémas de notre évolution. puisqu'on croyait que cette bipédie, l'outil, le partage de la viande, etc., tout le propre de l'homme, se manifestait d'un seul coup au moment où un de nos ancêtres passait d'Australopithèque à homme, c'est-à-dire passait des forêts aux savanes. Et l'East Story, on vient de l'évoquer, et pour nos origines, on avait complètement oublié la West Side Story, c'est-à-dire l'histoire du côté ouest, c'est-à-dire ce que sont les chimpanzés et les gorilles. Et ça, c'est une des découvertes les plus récentes des sciences, puisqu'on sait que depuis 30 ans maintenant, ben, ils rient, comme vous le disiez, les chimpanzés rient. Les chimpanzés
ils travaillent aussi.
Alors il y a quelqu'un qui dit à propos du langage, c'est cité, pourquoi les singes ne parlent pas, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les fasse travailler, ce qui n'est pas stupide.
On va l'évoquer le langage, mais l'outil, vous avez évoqué l'outil. Bon, ça, c'est vrai que ça peut nous distinguer de l'homme. Ça, c'est, d'ailleurs, c'est l'homo habilis qui finalement découvre l'outil. C'est le premier, après l'Australopithèque, l'homo habilis, c'est le premier auquel on donne le nom d'homme. C'est lui qui découvre les premiers outils, les bifaces notamment, qui les fabrique en tout cas.
Les bifaces, c'est un peu plus tard, c'est l'homo erectus de Reggiani. Bon. Mais en l'occurrence, même là, ça ne va plus du tout. Darwin, en 1871, cite des observations comme quoi des chimpanzés utilisent des outils en pierre pour briser des noix. Il faudra attendre 1971, donc un siècle, c'est l'article de Christophe Bösch donc, dans le deuxième volume, pour qu'on réobserve ces chimpanzés, donc les descendants de ceux cités par Darwin, utiliser des outils en pierre. Et on sait maintenant depuis un an, que les chimpanzés ont des cultures. Donc là aussi, on s'était complètement trompé.
Et le feu, Pascal Pic.
Alors pour terminer sur l'outil, j'arrive au feu juste après. Homo habilis n'est plus seul. On a découvert en 1999 un Australopithèque avec une tête pas possible, c'est-à-dire un gros robuste, quoi, qu'on croyait végétarien, à côté d'outils en pierre taillée. Et ces outils avaient servi à dépecer des os d'antilope et des os de chevaux. Donc vous voyez, on s'aperçoit que tout cela fait partie des bagages de la famille.
Est-ce que c'est le feu qui nous distingue maintenant ?
Alors là, effectivement, je pense que l'homme, le démiurge, c'est vraiment l'homme qui se distingue par rapport au singe. Et le feu, donc les foyers, vous l'avez dit en présentation, c'est 550 000 ans, 600 000 ans, disons. Mais accaparer le feu, ça a commencé par cela. On a des traces qui remontent à 1 600 000 ans. Et c'est encore ce pithécanthrope ou Homo ergaster qui apporte le nom évoqué par Reggiani.
Il le fabrique comment, le feu ?
Ah, d'abord, il le vole. Ils le maîtrisent. Et fabriquer le feu, bon, c'est taper des pierres l'une sur l'autre, ça c'est bien connu, mais le plus efficace, c'est frotter un bout de bois sur un autre.
C'est évidemment un extrait de La Guerre du Feu de Jean-Jacques Haneau. Bon, je ne sais pas si la langue que l'on entend était la langue de nos ancêtres. Déjà, l'Homo erectus, l'inventeur du feu, Pascal Pic.
Oui, comme disait un ami, le plus important ne se fossilise pas, c'est-à-dire le rire et le langage, malheureusement. Mmh. Alors, on en est réduit à des approches indirectes, à travers l'anatomie et à travers les contextes. C'est-à-dire, on se dit, voilà ce que faisaient ces hommes, le feu, la fabrication d'outils. Est-ce que ça entraîne une certaine forme d'intelligence? Et est-ce que cette forme d'intelligence induit un minimum de langage? En tout cas, on sait. On sait qu'au niveau du larynx, c'est-à-dire c'est là que se passe la mécanique de la phonation. Au niveau du larynx, Néandertal et Cro-Magnon devaient être doués de langage. Maintenant, en ce qui concerne les hommes les plus anciens, on n'a rien qui nous permette de dire l'un ou l'autre. Soyons très clairs.
Disons que c'est l'homo sapiens, hein, notre descendant, notre ancêtre direct plutôt.
Là on est sûr que c'est nous, donc oui. Voilà. Mais pour les autres, on ne sait pas trop. On n'a pas de France Inter des Néandertaliens ou d'Homo erectus malheureusement, et on ne pourra jamais le dire. Par contre, il y a le cerveau, et donc c'est dans le cerveau que s'élabore le langage. Et on est capable de reconstituer en partie l'anatomie des surfaces du cerveau chez nos ancêtres. Et par exemple, chez Homo habilis que vous citiez, on a des indices d'un développement plus important du cerveau gauche par rapport au cerveau droit, comme chez nous. Alors ceci est lié à la dextérité, donc à la capacité de faire des outils. Mais on a aussi des traces d'une aire de Wernicke et de Broca, qui sont deux aires qui sont dédiées au langage. Donc je ne veux pas dire qu'ils parlaient comme nous, mais ils en avaient les capacités. Mais surprise, une fois de plus, du côté des chimpanzés, comment penser qu'il n'y avait que l'homme capable de faire cela? On n'avait jamais été voir dans leur boîte crânienne. Et on sait depuis 3 ans qu'ils ont des aires telles que celles-ci. Ce qui permet d'expliquer pourquoi les chimpanzés sont aussi performants lorsqu'ils apprennent des langages sourds et muets ou des touches d'ordinateur.
En tout cas, l'homo sapiens, celui qui invente le langage, est beaucoup plus proche de nous que les australopithèques, dont nous parlions il y a quelques instants. Ce qui est assez fascinant, et on s'en rend pas compte, parce que là on vient de faire en 26 minutes 3 millions d'années d'histoire. Ce qui est assez fascinant, autant que les distances qui nous séparent des astres, c'est toute la distance qui nous sépare de nos origines, ce que rappelait d'ailleurs un des plus célèbres préhistoriens français en 1976, Henri de Lumley.
L'homme existe depuis 3 millions d'années. Enfin, l'homme tailleur d'outils existe depuis 3 millions d'années. Et si l'on réduit ces 3 millions d'années à la durée d'une journée, on peut dire que l'homme apparaît le 1er janvier à 0 heure. Il invente le feu presque à la fin de l'année, c'est-à-dire presque à la fin de son histoire, le 1er novembre, au début de l'hiver. Pendant les 5/6 de son histoire, l'homme n'a pas connu le feu. L'art, l'invention de l'art, daterait du 29 décembre. Enfin, l'agriculture, la sédentarisation, c'est-à-dire les premiers paysans qui sont agriculteurs et pasteurs, apparaissent le 31 décembre à 10h du matin. Enfin, la civilisation industrielle, c'est le 19e siècle, c'est-à-dire le 31 décembre à 23h50.
C'est incroyable ça, c'est les distances, on s'en rend pas compte là, on vient de parler en 26 minutes, les distances qui nous séparent de l'Australopithèque, hein, le plus ancien ancêtre de l'homme, de la société industrielle qui représente quoi, un fétu de paille dans tout ça.
Oui, on est passé des 6000 ans de la Bible qui nous semblait déjà important aux 6 millions d'années d'Aurora. Il y a une référence que j'aime bien faire aussi, c'est à propos de l'art des grottes. Comme vous le savez, il y a cette magnifique grotte Chauvet et qu'on a pu dater, c'est 33 000 ans. Lascaux, c'est 17 000 ans. Il faut se rendre compte qu'il s'est passé autant de temps, et c'est la même espèce, c'est Cro-Magnon, c'est nous, hein, c'est Homo sapiens, il s'est passé autant de temps entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux, qu'entre la grotte de Lascaux et l'ouverture du centre Pompidou.
Mais est-ce que ça a un sens, au fond? C'est passionnant ce que vous nous dites, ce qu'on découvre en vous lisant ou en vous entendant, Pascal Pic. Mais est-ce que ça a un sens? Ça sert à quelque chose? Tout ça, parce qu'après tout, on s'est bien passé de l'existence de Lucie pendant des siècles.
Oui, oui, mais on l'aime bien, hein, on va pas la remettre dans ses sédiments quand même. Non, en l'occurrence, il n'existe pas, à propos du propre de l'homme, il n'existe pas une seule culture humaine qui se pose pas la question des origines. Or, nous autres scientifiques, nous autres paléanthropologues, nous sommes pas des désenchanteurs du monde, nous sommes ceux qui abordons cette question d'une autre manière, mais selon une approche universelle que celui des sciences. Donc ces deux livres proposent un état des connaissances actuelles, à la fois avec modestie, c'est-à-dire scientifiquement, avec nos incertitudes, mais c'est déjà beaucoup.
Je rappelle leur titre, Pascal Pic, donc un livre que vous avez dirigé avec Yves Coppens, en deux volumes, De l'apparition de la vie à l'homme moderne et Le propre de l'homme, donc, et qui s'intitule, ces livres, Aux origines de l'humanité. Vous avez pu également écrire avec Véronica Georges un petit livre pour enfants chez Nathan qui s'appelle Lucie et les premiers hominidés, et est recommandé pour les plus jeunes. Vous avez pu entendre des extraits du film La guerre du feu de Jean-Jacques Annaud. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Mathias Alléon, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Et cette émission en compagnie de...